simplement ils ont confirmé la décision initiale et ils ont dit qu'il n'y avait pas lieu à supplément d'information. Hein. Notre première réaction, c'est de penser surtout aux personnes que nous défendions et puis aux victimes du génocide, parce que toute cette affaire n'aurait pas dû avoir le suivi qui a été le sien, à savoir la poursuite des personnes qui ont été incriminées, et qui ont été incriminées volontairement, délibérément, pour essayer de polluer le contexte de cette affaire. Donc maintenant, nous attendrons de lire la décision, de le communiquer à nos clients pour qu'ils disent quelle est leur réaction par rapport au contenu du dossier.
Il peut y avoir un pourvoi en cassation. On sait que cette affaire dure depuis...
Alors, je crois que c'est à nous.
Oui, mais du coup...
Donnez.
Attendez, maître. Attends.
Oui. Non, écoutez, le pourvoi, nous espérons qu'il n'y en aura pas, mais nous craignons, compte tenu de la façon dont les parties civiles se sont comportées, enfin une partie des parties civiles se sont comportées pendant toute la période qui se prolonge à peu près depuis une vingtaine d'années, nous craignons qu'une manœuvre dilatoire intervienne de nouveau. Donc c'est une étape. C'est une étape fondamentale, puisque c'est une confirmation d'une décision de non-lieu, ce qui n'est pas dérisoire. La Cour nous a indiqué qu'il y avait à peu près 64 pages d'arrêt. Donc c'est une décision qui sera largement et très clairement motivée. Maintenant, c'est aux parties civiles de décider si elles continuent ces manœuvres depuis le début du dossier, qui consiste à vouloir jeter l'opprobre sur certains et puis ne pas chercher la vérité.
Mais pour vous, évidemment, une satisfaction quand même de cette décision ?
Nous verrons la façon dont elle est motivée. Il est certain que pour nous, c'est déjà une première étape importante. La satisfaction, nous ne l'aurons jamais dans ce dossier. Parce que pour les personnes qui ont été poursuivies, ça a été une vingtaine d'années de galère. Ça a été une diffamation permanente, ça a été une pollution de l'identité et de la réalité des faits. On s'est trouvé un peu dans les processus classiques des génocides, où on prête aux victimes la responsabilité des actes qu'ils ont vécus. C'était le cas dans la Shoah, où on reprochait aux Juifs d'être responsables de leur propre génocide. Mais bon, en tout état de cause, parler de satisfaction serait aller trop loin, mais c'est déjà une première étape qui est une forme de soulagement.
Merci.
Merci, maître.
Merci à vous.
Et on n'a aucune idée de motivation.
Pardon ?
On n'a aucune idée de motivation.
Non, aucune. Hein. Vous avez vu, ça a été très rapide. L'audience est extrêmement chargée. L'arrêt, comme je l'ai dit, la Cour a eu l'obligeance de nous indiquer qu'elle faisait 64 pages. Nous n'avons même pas de document de travail. Vous savez, dans certaines affaires de presse, on n'est pas dans une affaire de presse, mais on a un document de travail. Mais là, ils ont besoin de terminer la mise en forme de la décision sur un plan strictement technique, et nous aurons la décision lundi. Hein, donc ceux qui le souhaitent pourront joindre soit mon confrère Minguin, soit moi-même. Je précise, parce que sur un blog, il était indiqué que j'étais canadien, belge. Je suis strictement et simplement français. Et banalement.
Vous pensez que l'instruction va pouvoir être réorientée dans un autre sens, dans une autre direction ?
Eh bien, écoutez, c'est en fonction de la lecture que nous aurons de ce dossier et après concertation avec nos clients que nous verrons si des suites doivent être données pour aboutir à la clarification de la vérité. Puisqu'il est incontestable que depuis le début et d'une façon permanente, et je dirais même dans la déconfidentialisation des documents qui étaient intervenus de la part de l'Élysée, il apparaissait que les premiers qui étaient suspects n'étaient pas nos clients. Donc il est certain qu'il y a une insatisfaction qui demeurera, c'est celle de savoir qui a perpétré cet attentat qui a été le signal déclencheur du génocide. Donc ce n'est pas du tout quelque chose de dérisoire.
Est-ce que vous pensez qu'on le saura un jour, justement, qui a fait cet attentat ?
Je pense qu'on y aboutira. Mais je pense qu'on y aboutira. Bernard, vas-y.
Je précise que dans le dossier, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui, quand même, donnent des indications sur l'endroit où il faut mener les recherches. Et ce qui s'est produit, c'est qu'au lieu de mener cette enquête en regardant les faits et en allant vers des endroits où il fallait aller, ben on a tout le temps mené à travers une série de manipulations des enquêtes dans une certaine direction vers certaines personnes. Et ça a sans doute permis aussi d'occulter la recherche de la vérité. Finalement, c'est une stratégie qui a permis d'éviter d'aller chercher peut-être aux endroits où il fallait chercher en prenant beaucoup plus de moyens que ce qu'on a utilisé. Mais ça, c'est pas notre problème. Notre problème, c'est que nous étions les conseils d'une série de personnes qui ont été injustement accusées. Il faut aussi imaginer que ces gens ont perdu énormément des membres de leur famille dans le génocide, ont dans leur propre pays l'image d'être les libérateurs de leur pays et se sont retrouvés pratiquement jetés dans des accusations qui enfin aujourd'hui permettent de voir les choses autrement. Et moi je voudrais ajouter aussi une chose, c'est que le secret de l'instruction a empêché de dévoiler tout le contenu du dossier, parce que le contenu du dossier permet de se rendre compte précisément qu'il y a une distance entre un certain nombre de discours médiatiques qui ont été menés et une réalité qui est très confondante dans le dossier et qui permet de travailler sur d'autres pistes. Et maintenant, 20 ans plus tard, ceux qui ont voulu occulter la vérité ont déjà une petite victoire, et c'est pour ça que nous sommes ici avec un sentiment très mitigé, parce que finalement, on rend justice à nos clients, mais on le fait à quel prix ?
Merci à vous.
Merci.
Merci. Merci. Bon courage. Merci. Vous les sortez. Si vous voulez, il y a quand même une piste, je l'indique, il y a une piste qui est incontournable. C'est que le lendemain de l'attentat contre l'avion, vous avez la première ministre qui était une Hutu modérée, qui était favorable aux accords d'Arusha et qui devait assurer l'intérim de la présidence, ainsi que le président du Conseil constitutionnel, qui ont été assassinés, et on sait pertinemment qu'ils ont été assassinés par la garde présidentielle. Et ça, on le sait depuis le début.
Ça vous embête si on fait la partie civile, ou alors on la fait sans vous mais... Non, mais parce qu'après, il faut qu'on... Voilà.
Je ne sais pas si on va m'entendre avec le masque. Je n'ai pas l'habitude de parler avec le masque. Bien.
Donc, alors, voilà. Donc vous confirmez que le non-lieu a été confirmé. Alors,
oui, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas forcément. Vous connaissez, Philippe Meillac, avocat de Agathe Abiarimana, la veuve du président Ntiyamira et d'autres membres des familles rwandaises abattues dans la, enfin, qui se trouvaient dans l'appareil. Alors effectivement, nous avons eu lecture, vous l'avez constaté, c'est extrêmement rapide, du sens de la décision de la Cour d'appel, la Chambre de l'instruction, qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu et rejeté la demande de supplément d'information que nous avions formée au vu du rapport top secret UTP hier, dont l'existence a été révélée en cours de règlement d'instruction, c'est-à-dire après l'avis de fin d'information. Je vous dirais que c'est une décision qui ne nous surprend pas, malheureusement. Nous sommes habitués, les parties civiles, depuis plus de 20 ans, à ce que des décisions qui, finalement, ne vont pas, et c'est ce qu'on regrette en premier lieu, dans le sens de la manifestation de la vérité, soient rendues. Alors, la faute n'en est pas nécessairement à la justice française. Il y a une chape de plomb dans ce dossier, qui a une connotation politique évidente, qui est omniprésente depuis le début de l'affaire. Il ne vous a pas échappé que ces derniers jours, le chef de l'État rwandais lui-même est monté au créneau par voie de presse en laissant sous-entendre qu'il ne voulait mieux pas que la justice française fasse de nouvelles investigations pour la coopération entre la France et le Rwanda. Alors c'est vrai que quand on a ce genre de commentaires, on ne peut qu'être inquiet et on ne peut qu'être dubitatif face à ce type, face aux décisions qui est rendue aujourd'hui. Alors maintenant que les choses soient claires, ça ne met pas du tout fin au combat des parties civiles. Le combat des parties civiles, c'est le combat d'une vie. Certaines sont déjà âgées, en particulier Madame Abiyarimana, mais elle compte bien, avec ses avocats et toutes les autres parties civiles également, poursuivre le combat. Il va y avoir un pourvoi en cassation qui va être inscrit dans les prochaines minutes au greffe de la Chambre de l'instruction. Nous espérons qu'il existera de nouveaux éléments. Il y en a d'ailleurs très régulièrement qui sont connus, mais de nouveaux éléments qui permettront la réouverture de l'information. Il faut bien se rappeler que quand il y a une décision de non-lieu, ce n'est pas, le couvercle n'est pas définitivement remis sur les faits, mais qu'il peut y avoir une réouverture d'informations. Alors ce que je regrette par-dessus tout, c'est que on a vu ces dernières semaines une coopération de la France avec la juridiction internationale qui a permis l'arrestation d'une personne recherchée depuis pas mal d'années par la juridiction internationale, vous voyez à qui je veux faire allusion, et que réciproquement, c'est ce que nous demandions aujourd'hui, on ne veuille pas faire appel à la coopération de la justice internationale pour élucider un événement qui est non seulement une affaire criminelle majeure, mais qui est un événement géopolitique tout aussi majeur de la fin du XXe siècle. Alors, il est vrai que la juridiction internationale n'a jamais voulu collaborer, n'a jamais voulu d'ailleurs enquêter sur cet événement. Mais ce que nous regrettons à l'instant où je vous parle, et parce qu'il y en avait cette possibilité, c'est que la justice française n'ait pas voulu demander un supplément d'informations qui, de toute évidence, aurait permis de conforter la thèse qui existe depuis toutes ces années. Alors, j'entends très bien ce que vont vous dire les autorités rwandaises aujourd'hui, qu'on va peut-être reprendre des investigations vers une autre piste, etc. La réalité, c'est que si tel avait dû être le cas, on l'aurait fait depuis longtemps. Et la réalité, c'est qu'il n'y a qu'une seule piste qui a véritablement été suivie dans le dossier. Alors, au début de l'information, il y a eu effectivement un certain nombre d'hypothèses, un certain nombre de scénarios qui ont été envisagés. Mais assez rapidement, une seule piste, une seule thèse a été suivie. Et la stratégie des autorités rwandaises et des personnes mises en cause, parce que leur stratégie est commune, la stratégie des personnes mises en cause et la stratégie des autorités rwandaises dont elles font partie, a été d'enrayer le travail, d'enrayer les investigations. C'est qu'il y a eu de nombreux témoins qui soit ont disparu, soit n'ont pas pu témoigner. Et aujourd'hui, les choses sont claires. Le risque est grand que cet attentat du 6 avril 1994, qui encore une fois est non seulement un fait criminel, une gravité particulière, mais un événement géopolitique majeur, reste un point d'interrogation dans l'histoire de l'humanité. Et ça, je crois que ce n'est souhaitable absolument pour personne. Et c'est, je dirais, aujourd'hui, notre combat, il est à ce niveau-là. Il n'est pas unique. Il est bien évidemment en premier lieu pour les victimes directes que nous représentons, mais ces victimes directes, elles portent aussi quelque part le poids de la manifestation de la vérité pour leur peuple qui aspire à connaître la vérité sur cet événement.
Merci beaucoup, maître.
Bonjour. Alors, je ne sais pas qui est qui d'ailleurs entre vous.
Alors, RFI,
RFI,
Le Monde.
Vous-même
et Bouka.
Ah, d'accord. Okay. Moi, je suis maître Binanda. Je représente une des familles françaises de membres de l'équipage, la famille Perrine, donc partie civile dans ce dossier depuis le début. Alors, mon confrère Meillac a été assez complet, donc je rajouterai juste 2-3 points. La décision, ne nous surprend pas plus que ça, compte tenu effectivement du contexte politique qui a été rappelé très opportunément par le président Kagame ces jours-ci. En revanche, cet arrêt constitue, c'est le constat d'un échec patent de la justice française, puisque au bout de plus de 20 ans d'instruction, la justice est en fait incapable de nous dire quels sont les auteurs, les commanditaires de cet attentat, après avoir mis en œuvre des moyens considérables et fait appel à des magistrats des services enquêteurs parmi les meilleurs de notre pays. C'est le constat d'un échec et c'est également une situation incompréhensible. Il va falloir qu'il y ait des explications qui soient données, qu'il y ait des explications qui soient données par le TPIR, par le mécanisme qui lui subsiste. Nous expliquer pourquoi des documents qui se rapportent à cet attentat ont été conservés, n'ont pas été exploités, ont été conservés par le TPIR puis le mécanisme, lesquels ne pouvaient ignorer l'existence de cette information judiciaire, puisque je rappelle quand même que dans un attentat qui a coûté la vie à deux chefs d'État en exercice, plus tous les passagers du Falcon, la seule instruction ou la seule investigation qui a eu lieu est précisément celle menée en France. Donc j'entends aussi qu'on nous dit aujourd'hui qu'on va peut-être pouvoir investiguer d'autres pistes. Ça fait 26 ans, un peu plus de 26 ans que l'attentat a eu lieu. Effectivement, il serait temps de s'y mettre de tous côtés. Et le Rwanda n'a mené aucune investigation sérieuse pour déterminer l'origine de l'attentat du 6 avril. Et je disais que c'est une situation absolument incompréhensible dès lors que une juridiction détient des documents qui se rapportent à cet attentat. Elle les garde enfouis, elle ne le transmet pas à la justice, et la justice française, autre situation absolument incompréhensible, ne joue pas son rôle de manifestation de la vérité. C'est le principe même du juge d'instruction et de la chambre de l'instruction de tout mettre en œuvre pour que la manifestation de la vérité puisse suivre son cours. À partir du moment où on a la preuve que des documents ne sont pas exploités, on ne peut pas nous dire en même temps que le dossier est insuffisamment étayé, que les témoignages sont insuffisamment corroborés ou contradictoires, et puis en même temps ne pas utiliser précisément tout un dossier d'enquête qui a été réalisé sans savoir ce qu'il contient et simplement l'ignorer. Donc c'est une étape aujourd'hui, ce n'est qu'une étape, puisque effectivement il va y avoir un pourvoi en cassation. Donc la Cour de cassation va devoir apprécier la validité juridique des décisions précédentes, et nous allons très formellement nous adresser au mécanisme et à la justice française pour qu'il y ait une explication sur le fait que des documents sont volontairement laissés de côté. Et comme le rappelait mon confrère Meillac, la coopération entre les juridictions internationales comme le mécanisme et la justice française, ça ne peut pas jouer dans un seul sens. Il faut que tout le monde joue le jeu, parce que l'impunité ne peut être admise quelle que soit la nature des crimes et quelle que soit la nature des éventuelles mises en cause. Voilà.
Ça veut dire que cette interpellation, légalement, va prendre quelle forme?
On va voir. Ça peut être une interpellation juridique ou non juridique. Le tout, c'est que cette question soit traitée au fond. Parce qu'on ne peut pas rester sur un attentat et les conséquences de cet attentat. On ne peut pas rester avec des portes qui restent ouvertes. Et des zones d'ombre, c'est absolument impossible.
Merci beaucoup, Maître. Si vous me permettez de présenter...